20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. À l'affiche de ce journal du classique, le pianiste Alexandre Tarot. Il nous racontera 30 ans de carrière discographique à l'occasion de la publication d'un triple album, réunissant justement quelques-uns de ses enregistrements emblématiques, mais complétés également par quelques inédits. Et puis également à l'honneur, la flûtiste Anna Besson, dont Thierry Ilerito du Figaro nous dressera le portrait. Avant cela, quelques mots sur les derniers événements de l'actualité musicale et une pensée bien entendu pour les Viennois qui ont subi hier un terrible attentat alors qu'ils profitaient de leur dernière soirée avant le confinement. Roberto Alagna et Alexandra Courjac étaient sur la scène de l'opéra pour une dernière représentation de Pagliacci et ils ont dû ensuite, comme tous les spectateurs, attendre que la police les évacue en toute sécurité. Pendant ce temps, quelques musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Vienne ont continué à jouer pour le public, comme en témoigne une touchante vidéo publiée sur Twitter et relayée par Renaud Capuçon. Pendant ce temps, la répression contre les musiciens se poursuit en Biélorussie. Comme le rapporte la lettre du musicien, les artistes de l'opéra de Minsk, engagés dans la mobilisation contre le dictateur Alexandre Loukachenko, viennent d'être limogés, tandis que la flûtiste Maria Kolesnikova, l'un des leaders de l'opposition, est toujours emprisonnée. Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles. Jordi Savall vient ainsi de nous annoncer sa guérison après avoir été affecté 21 jours par le virus Covid-19. Je suis heureux d'avoir eu la chance de surmonter cette maladie sans autre conséquence et de retrouver, après cette longue période d'isolement, ma vie de famille, a-t-il écrit sur son compte Facebook, exprimant également sa solidarité avec tous ceux qui souffrent de cette maladie et des conséquences de la pandémie, s'annonçant prêt à reprendre ses activités et à poursuivre son engagement personnel en faveur de la musique et des musiciens.
Laure Maison sur Radio Classique.
Le poète du piano, ainsi s'intitule le triple album publié par Erato, qui, bien au-delà d'un simple best-of, nous raconte une belle histoire artistique et humaine, celle d'Alexandre Tarot. Un regard vers le passé, 30 ans d'une intense activité discographique, enrichie d'inédits et de surprises. Alors Alexandre Tarot est passé nous voir la semaine dernière, quelques jours avant l'annonce du nouveau confinement, pour nous présenter ce coffret dont il a conçu personnellement la programmation, après s'être replongé avec une certaine tendresse dans son passé discographique.
J'ai une relation très complexe avec ma discographie, qui est trop longue. J'ai commencé à enregistrer très tôt, hein, à 19 ans. J'ai enregistré 54 disques, ce qui est énorme. Trop de ces disques sont ratés, à mon sens. Et j'ai toujours eu du mal à les écouter, voire de la douleur à les écouter. Et là, pour la première fois de ma vie, le confinement aidant, je me suis installé sur mon sofa et j'ai écouté tous les disques, depuis le tout premier, qui n'est jamais sorti dans le public, dont j'ai mis un extrait à la fin du troisième disque, jusqu'au tout dernier. Pour la première fois de ma vie, je les ai écoutés avec bienveillance, sans douleur, en essayant de ne pas juger. J'ai écouté les anciens disques comme on écoute un petit frère, et puis sans me souvenir de l'ambiance de l'enregistrement, si ça s'est bien passé, mal passé, parce que évidemment que ça s'est mal passé, tous mes disques se sont mal passés. Les sessions d'enregistrement, quand j'avais 19 ans, c'était comme maintenant, c'est-à-dire que je pleure, le lendemain je ris, je veux m'arrêter de jouer, ensuite deux heures après je veux recommencer, et c'est épouvantable pour
l'équipe. Donc ce sont des accouchements dans la douleur à chaque fois?
Des accouchements au forceps. Et j'ai pu tout réécouter depuis le départ jusqu'au dernier disque, celui avec Sabine de Vielle au mois de septembre. Et ça m'a fait du bien.
Thank you.
réécouter tous vos enregistrements, Alexandre Tarot, et vous avez réenregistré également certaines pièces qui figuraient au programme d'albums parmi les tout premiers de votre discographie. Je pense notamment à cette pièce Idylle d'Emmanuel Chabrier. On se souvient de cet album Chabrier, l'un de vos premiers albums qui est sorti il y a une vingtaine d'années à peu près. Et on s'aperçoit que votre interprétation d'Idylle a changé. Elle est plus affirmée, elle est plus vive. Ces enregistrements du passé, ce sont des moments figés comme une photographie d'un moment de sa vie. Entre-temps, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez mûri, vos interprétations ont changé. Il y a en même temps une pointe de nostalgie et d'affection pour ce jeune Alexandre Tarot d'il y a 20-25 ans.
Oui, parce que c'était un jeune homme. Ce n'est pas moi maintenant. Oui, il y a de la nostalgie. J'entends aussi dans ces enregistrements beaucoup de peur, en fait. C'est parce que j'avais peur du micro et ce micro m'attirait. C'était en même temps, comme je vous le disais, des moments difficiles, hein, l'enregistrement. Et pourtant, dès que je sortais en studio, je n'avais qu'une envie, c'est d'y retourner.
Parce que vous aimez ça, le studio, pour
j'adore
y être retourné aussi souvent.
Moi, je considère que j'ai deux métiers. Le métier de pianiste de scène et métier de pianiste de studio. Une autre manière de jouer. On s'adresse différemment à ces deux petits micros qu'à une salle de 2000 personnes. Et j'adore ce métier. S'enfermer à double tour pendant quelques jours, s'éloigner du monde, être face à face avec un compositeur, avec une œuvre, avec un instrument, une acoustique, avec uniquement la directrice artistique,
qui
Cécile
d'ailleurs toujours
Lenoir,
la même.
Tous mes disques depuis des années, mon accordeur chéri, Michael Barghès, et puis il y en a eu d'autres accordeurs, le grand Kazuto Sato, par exemple, fabuleux accordeur de piano. C'est une équipe restreinte, mais le disque, c'est le résultat d'une équipe. Ces jours, comme je vous le disais, de douleur parfois, ont été accompagnés. Cécile Lenoir est une femme extraordinaire qui garde ses nerfs tout le temps, même face à quelqu'un comme moi, insupportable pendant les enregistrements. Et pendant un enregistrement, on doit être entouré de gens passionnés pour qui chaque seconde de l'enregistrement est importante.
Alors, on se replonge dans votre discographie à travers ce triple album, Alexandre Tarot. On suit votre programmation que l'on sent réfléchie, créative, inventive. Vous n'avez pas choisi l'ordre chronologique, ni des compositeurs, ni forcément des dates d'enregistrement. Comment l'avez-vous conçu, ce parcours, pour que ces pièces se répondent, s'enrichissent les unes les autres?
À partir du moment où je savais qu'on allait mettre trois disques, des disques qui sont assez épais maintenant, puisqu'on arrive à dépasser 80 minutes par CD, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un premier volume que j'ai appelé solo, des pièces pour piano seul, deuxième volume concerto, que des enregistrements avec orchestre, dont certains inédits, et puis un troisième que j'ai appelé rareté et surprise, avec des inédits, des pièces d'un répertoire du XXe siècle. Il y a même une chanson que j'avais enregistrée avec Dominique A. Et je termine ce dernier disque avec un extrait de mon tout premier disque qui n'était donc pas sorti dans le public quand j'avais 19 ans. Un disque Ravel que j'avais enregistré dans des conditions assez drôles avec un vieux monsieur qui s'appelait Georges Kisseloff, un ingénieur du son merveilleux qui était très gentil avec moi. C'était pas un disque bien fameux, mais c'est mon premier disque, donc quelque chose d'important pour moi. Je me suis dit que c'était l'occasion, peut-être une seule fois dans ma vie, je peux mettre un extrait de ce disque qui était jusque-là fantôme.
plusieurs inédits, des reprises d'œuvres que vous aviez enregistrées précédemment, mais de véritables inédits d'œuvres qui ne figuraient pas encore à votre répertoire discographique. Alexandre Tarot figure au programme de ce triple album, et notamment cet arrangement que vous avez réalisé vous-même de l'Adagietto de la 5e symphonie de Mahler, une magnifique version. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous emparer de ce monde mahlérien, de ce monde de l'orchestre, des cordes, hein, puisque l'Adagietto de Mahler, ce sont des cordes. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche?
J'ai toujours été attiré par l'exercice de la transcription. Je trouve que tous les pianistes devraient transcrire eux-mêmes, même les pièces qui ont été transcrites par d'autres. Mmh. Parce que quand on écrit son propre arrangement, on fait sonner le piano à notre manière, qui est propre, qui n'est pas celle des collègues. Et j'ai transcrit beaucoup d'œuvres, dont le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, oui, qui figure aussi dans ce disque. Le Mahler, alors ça, c'est un morceau que j'aime énormément, que j'écoutais beaucoup quand j'ai découvert le Québec à 17 ans. C'est une œuvre que j'écoutais en boucle. Elle s'est imprimée en moi, et les œuvres essentielles dans notre vie, quand on a la chance d'être pianiste, on veut les jouer avec notre instrument, qui est un instrument orchestre. Un jour, j'ai décidé de l'écrire, cette cadence. J'étais dans une tournée en Asie. Je me souviens que je pensais beaucoup à un ami québécois de cette période de mes 17 ans. Et j'ai terminé cette transcription le dernier jour. J'étais à Hong Kong. Et puis le lendemain, j'ai appris que cet ami était mort. C'est assez fou. Et du coup, cette transcription que je n'avais pas du tout envie de jouer en concert, c'était pour moi, c'était simplement un exercice. Je me suis dit, mais je vais la jouer en concert. Et j'ai ressenti un public extrêmement concentré. Vous savez, il y a des œuvres comme ça, des compositeurs qui engendrent un silence intense du public. Rameau ou Schubert, ce sont des compositeurs qui, en tout cas sous mes doigts, sens que ça donne une concentration plus forte dans le public que d'autres compositeurs. Alors j'ai continué à la jouer, je l'ai joué énormément en concert, cette œuvre. À chaque fois que je joue cette œuvre, je la joue pour cet ami-là. C'est comme ça que je fais mon deuil, et je trouve ça assez joyeux, au fond. Alors, pour ce best-of, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion d'enregistrer cette pièce d'uniquement 10-11 minutes. Elle est assez bien entourée, avec dans le premier des trois CD, par d'autres œuvres qui la mettent en valeur.
Oui, c'est tout cet art que vous avez, Alexandre Tarot, de combiner les pièces les unes après les autres. Donc il y a la transcription, transcrire c'est réécrire, et puis il y a l'écriture, puisque vous êtes aussi compositeur, Alexandre Tarot. Vous avez profité du confinement pour écrire encore. C'est une activité que vous pratiquiez depuis longtemps, peut-être en secret, on ne le savait pas en tout cas.
Parce que j'en parlais pas. Enfant, je me destinais au métier de compositeur et chef d'orchestre, mais plus compositeur. Et puis, le piano a pris le dessus. J'ai continué à composer pour mes amis, parfois, qui me demandaient une œuvre, mais sans me prendre au sérieux. Ça ne veut pas dire que je me prends au sérieux, je me prends pour un compositeur aujourd'hui. Mais je pense que le confinement a donné une chance à beaucoup d'entre nous. La chance de pouvoir donner une place à des désirs enfouis. Certains, je sais pas, ont fait la cuisine, ou écrit un livre, ou ont commencé le piano, peut-être. Moi, j'ai repris les pièces que j'écrivais depuis des années, au cours de mes tournées, des pièces pour piano, courtes, d'une ou deux pages chacune, qui sont toutes liées à la danse ou au mouvement du corps. J'en ai édité 20, là, aux éditions Le Moine, ce mois-ci, au mois de mai. Donc, au sortir du confinement, quand j'ai enregistré ces quelques nouveautés pour mon best-of, je me suis dit, pourquoi pas? J'y avais pas pensé, mais pourquoi pas? Et j'ai dit à Cécile, tiens, ouvre les micros, j'ai apporté ça ce matin, je vais t'en jouer quelques-unes. On les a enregistrées, j'en ai gardé 6 ou 7, je crois. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire avant le Covid-19. Thank you.
On écoutait l'une de vos pièces, Alexandre Tarot, l'une de ses danses qui figure au programme de ce triple album qui vient de paraître. Ce sont des pièces brèves, comme la plupart des pièces d'ailleurs qui figurent au programme de cet album, même si vous avez joué des œuvres de plus grande envergure, vous avez joué des sonates, les sonates de Beethoven notamment. On retrouve essentiellement ici, en tout cas dans les pièces solo, des petites miniatures. Vous aimez cela? C'est un genre qui vous convient bien, dans lequel vous vous sentez particulièrement bien.
C'est vrai, j'aime les miniatures et j'aime les grands gestes. J'aime jouer les variations Goldberg, j'aime les programmes marathoniens, j'aime les œuvres très longues, ou les programmes très longs, et les œuvres excessivement courtes.
Un répertoire vaste, un répertoire varié, un répertoire surprenant. Vous nous avez conduit durant ces 30 années sur des chemins divers, sur des chemins inattendus, parfois jusque vers le monde de la chanson ou de la musique bretonne. Quels sont les chemins que vous avez envie de suivre aujourd'hui? Est-ce que vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles surprises? Il y a aussi eu ce duo que vous formez avec Sabine de Vielle, piano voix, merveilleux album qui est sorti il y a quelques semaines. Une autre expression du pianiste, celui qui chante en duo.
Mais je crois, en ayant choisi moi-même toutes les plages de ce triple album, je me rends compte aussi que ces répertoires qui paraissent très différents, mais se répondent les uns les autres. Et je n'ai pas enregistré ou joué de choses très originales, au fond.
C'est pas parce que j'ai... quand même, il y a quelques pièces que vous avez sorties un peu de l'oubli.
Les rares, oui.
L'Admiro, c'est pas si fréquent.
Paul Lamiro, c'était un compositeur merveilleux.
Oui. Paul Le Flemme.
Alors, Lamiro et Le Flemme, c'était une commande du musée de Bretagne à l'époque, je sais pas, il y a 15 ans, 20 ans. Ils avaient fait une exposition sur les 16 Breurs. Les 16 Breurs, c'était un mouvement d'artistes. Il y avait des potiers, des peintres, des écrivains bretons et qui revendiquaient cette culture bretonne. Et ils m'avaient demandé pour accompagner le catalogue de l'exposition de faire un disque. Donc un best-of, une anthologie, on va dire, plus qu'un best-of, c'est le moment de sortir des placards, des vieilleries. j'ai fait le tri et j'ai trouvé que cet album pour ce musée de Bretagne était pas mal du tout, en tout cas, mettait en valeur des compositeurs de très grands talents et qu'on n'entend quasiment jamais.
Alors là, ce sont des vieilleries, entre guillemets, mais le futur, comment le voyez-vous? Les nouveaux chemins que vous allez emprunter, Alexandre Tarot?
Alors, je connais mes disques des prochaines années, mais je n'en parle pas par superstition. Au concert, c'est ce qu'on appelle le grand répertoire, le répertoire classique, aussi des créations de concertos. J'essaye de créer un nouveau concerto de compositeur, alors pas de moi, hein, de compositeur vivant.
Ah, peut-être un jour de vous-même.
Oui, enfin, je ne sais pas. Mais je trouve ça magnifique, très excitant d'arriver sur scène, de se dire là, c'est un moment, la responsabilité sur les épaules de l'interprète quand le compositeur est dans la salle, quand il y a une salle pleine avec un orchestre et qu'on joue pour la première fois une œuvre qui sera peut-être considérée comme un chef-d'œuvre et qui va traverser les siècles. Et voilà, continuer la musique de chambre avec Jean-Guyenne Queyras, violoncelliste, ou Sabine de Vielle, des amis chers, importants, avec lesquels j'aime partager la scène.
Notre amour est chose légère, comme les parfums que le vent prend au ciel de la fougère, pour qu'on les respire en rêvant. Notre amour est chose légère. Les choses charmantes, comme les chansons du matin, où du regret ne se lamente, où vibre un espoir incertain. Notre amour est chose charmante. Notre amour est chose sacrée, comme les mystères des bois, où tressaille la mignonnée, où les silences ont des voix. Notre amour est chose sacrée. Chose infinie, comme les chemins des couchants, où la mer aux cieux réunis s'endort sous les soleils penchants. Notre amour est chose éternelle, comme tout ce qu'un dieu vainqueur a touché du feu de son aile, comme tout ce qui vient d'un cœur.
Notre amour, délicieuse mélodie de forêt chantée par Sabine de Vielle avec le pianiste Alexandre Tarot. Un extrait de ce merveilleux album qui était sorti quelques semaines avant ce tout nouveau coffret de 3 CD que vient de publier Erato. Retraçons donc le parcours discographique d'Alexandre Tarot. Alexandre Tarot ne savait pas encore, lorsqu'il est passé nous voir la semaine dernière pour cette interview, qu'un confinement allait le contraindre à se retrancher de nouveau, comme nous tous. Il devait se produire les 4 et 5 novembre à la Philharmonie de Paris. Son récital, prévu le 4, a été reporté au 18 mai. Quant à son concert du 5 novembre avec l'ensemble Le Balcon et Maxime Pascal, eh bien il sera donné à huis clos et diffusé sur le site de la Philharmonie, Philharmonie Live, ainsi que sur Arte Concert. Alexandre Tarot jouera à cette occasion 3 œuvres concertantes, le 5e concerto de Bach, le 9e dit Jeune homme de Mozart, ainsi qu'une création d'Oscar Strasnoy.
Nouvelle génération de Thierry Lhériteau avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, malgré le confinement, vous nous emmenez du côté de la Hongrie.
Oui, enfin, ce n'est pas vraiment moi qui vous y emmène, mais la flûtiste Anna Besson a 32 ans. Cette jeune Perpignanaise vient de publier chez Alpha, avec la pianofortiste Olga Pachenko, un disque qui est une ode au déconfinement par la musique, Variations on Folk Songs, une véritable invitation au voyage à travers le folklore européen du 19e, réinventé pour ou par la flûte, par des compositeurs de renom tels que Ludwig van Beethoven, mais aussi et surtout par les grands virtuoses de la flûte romantique de l'époque. Ils s'appellent Friedrich Kühlow, Eugène Walkers ou encore Franz Doppler. Au milieu du 19e, lui et son frère Karl sont pour ainsi dire les sœurs Labeck de la flûte. On les entend dans toutes les cours d'Europe et pour séduire la noblesse, eh bien, ils n'hésitent pas à arranger des airs populaires glanés au fil de leur tournée ou originaires de leur Hongrie natale. C'est ainsi que naîtra la fantaisie pastorale hongroise justement qui ouvre ce disque tout en pastel délicat, en dépaysement et en fraîcheur d'expression, perdu quelque part entre la naïveté du douanier Rousseau et la puissance évocatrice du facteur cheval.
Un cheminement du populaire vers le savant qu'a justement suivi notre flûtiste Anna Besson.
Et oui, comme chez les Doppler, la musique chez les Besson est avant tout une affaire de famille. Son père est trompettiste professionnel, il dirige l'école de musique de Saint-Cyprien, c'est à une quinzaine de kilomètres de Perpignan. Sa mère, elle, pratique la musique en amateur, mais dès qu'ils le peuvent, eh bien, les parents traînent Anna dans les bals traditionnels du sud de la France. C'est entre deux pas de danse et un air de galoubet qu'elle a le coup de foudre. Après avoir un temps hésité avec la harpe, un peu trop volumineuse, elle opte pour la flûte, début à l'âge de 6 ans, avec la traversière. Et puis, pour ses 9 ans, eh bien, son père lui offre un CD de musique irlandaise du flûtiste folklorique Michael McGoldrick. Anna le sait désormais, la tin whistle sera son obsession, la seule, pendant toutes les années qui suivront. Un voyage en Irlande, d'où elle rapporte sa première flûte irlandaise, et tous ses étés d'ado à parcourir les festivals pour apprendre l'instrument auprès des musiciens traditionnels. Et déjà, sa soif de musique la rattrape, la traversière devient traverso, le monde baroque lui ouvre ses portes à 20 ans. Elle entre au conservatoire de Genève pour y étudier de front flûte moderne et flûte baroque, qu'elle approfondira ensuite au conservatoire de Paris.
Des incursions dans le baroque qui l'ont fait connaître justement du grand public.
En effet, car si la jeune femme commence à avoir un nom de plus en plus familier pour les mélomanes, eh bien c'est parce qu'elle est à l'origine de plusieurs ensembles baroques dont elle est la cofondatrice. Le quatuor Nevermind, par exemple, qu'elle forme en 2013 avec le violoniste Louis Créache, le gambiste Robin Gabriel Faro et le claveciniste Jean Rondeau, ou encore l'ensemble à géométrie variable Anocte Temporis, créé eh bien, avec son mari, le ténor Reinoud van Mechelen. Les deux musiciens, parents depuis plusieurs mois, ont d'ailleurs mis en partage leur passions respectives, puisque Reinoud s'est lui-même formé au chant traditionnel irlandais auprès de spécialistes du Shenos, littéralement le vieux style en gaélique, c'est-à-dire cet art de l'ornementation et des variations rythmiques très caractéristiques des musiques et des chansons de danse irlandaises des siècles passés. En avait découlé il y a un an un superbe album où les deux artistes se donnaient la réplique dans un répertoire dublinois typique de la fin du 18e, The Dublin Gardens. Ces variations sur des airs populaires que vient de publier Anna Besson avec Olga Pachenko sont donc en quelque sorte le prolongement intime dans les salons 19e de Paris, Vienne ou Budapest de cette première invitation au voyage.
Thank you. C'était le final de la fantaisie hongroise de Doppler, fantaisie pour flûte et piano, jouée par la flûtiste Anna Besson et la pianiste Olga Pachenko. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait d'Anna Besson et on se dit à la semaine prochaine.
Merci Laure, à la semaine prochaine.
Quant à nous, demain, nous serons en compagnie du pianiste Yaron Herman qui nous donnera quelques conseils pour développer notre créativité. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée qui se poursuit bien entendu en musique.